Il y a la une en Israël, vous en souvenez certainement, vous en parlez hier, il y a de fortes tensions dans le nord d'Israël, puisqu'Israël se préparerait, avec tous les guillemets nécessaires, à un affrontement avec le Hezbollah. Et justement, c'est à ce sujet que Lise Ben-Kemoun s'est entretenue avec Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires, au sujet justement de ces tensions à la frontière libanaise.
Jacques Neria, bonjour.
Oui, bonjour Lise.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors Jacques, vous êtes ancien officier des renseignements militaires et spécialiste de ce qui se passe au Liban et à la frontière nord. Et justement, en ce moment, ça chauffe, si j'ose dire. Menaces diverses au nord d'Israël et surtout en provenance du Hezbollah. Il y a même un général de Tzahal qui a dit que la confrontation allait être inévitable très prochainement. Vous êtes d'accord ?
Écoutez, selon les développements sur le terrain et les dernières, je dirais, les échanges verbaux entre les chefs militaires israéliens et le secrétaire général du Hezbollah, il est vrai que nous nous approchons très vite, je dirais, d'une confrontation militaire qui semble être inévitable parce que d'un côté, le Hezbollah est enhardi par le manque de réaction israélienne, il est tout le temps en train de faire des provocations auquel Israël ne répond pas, je dirais, d'une manière décisive. Ce qui fait que du point de vue du Hezbollah, c'est tout ce qui se passe dans cette sorte de l'analyse qu'ils font de ces réactions israéliennes les amène à conclure qu'Israël est faible, est affaibli par des problèmes domestiques, par des problèmes régionaux, et c'est le temps idéal pour agir contre Israël.
Alors, donc, si j'ai bien compris, Jacques, ils lancent leurs missiles sur les rampes de lancement mobile et après, ils vont les planquer soit dans des infrastructures civiles, soit dans des tunnels pour se protéger, évidemment, des frappes israéliennes.
Écoutez, exactement, c'est la théorie des boucliers humains qui a été héritée du Viet Cong au Vietnam et en Corée du Nord. C'est tout simplement d'agir au sein d'une population civile et donc sortir les équipements quand il faut tirer les salves contre Israël et très rapidement les ramener à l'intérieur de maisons qui semblent être neutres, qui semblent être innocentes ou dans des caches qui sont creusées a priori dans le rocher. Tout cela, ce sont des tactiques qui ont été apprises et enseignées par des Nord-Coréens avec l'aide naturellement des Iraniens, des conseillers iraniens. Donc la protection du Hezbollah, c'est le bouclier humain, et pour nous rendre la tâche beaucoup plus difficile. Et effectivement, ce sera très difficile parce que si jamais dans notre réaction nous allons toucher des civils, ce sera très difficile à défendre du point de vue international, d'opinion mondiale.
Bien sûr. Comment ça se fait, Jacques Neria, que Israël a laissé grossir cet arsenal du Hezbollah? On était à l'époque du début à peut-être 10 000 roquettes. On est censé être à plus de 100 000, 150 000 aujourd'hui. Pourtant, on n'a jamais sous-estimé le Hezbollah. Donc, comment on a laissé grossir cet arsenal?
Alors, tout à fait. Je dirais la dernière confrontation militaire. Rappelez-vous, la dernière confrontation entre nous et le Hezbollah date de 2006. C'est là, à l'époque, où Israël est sorti de cette bataille qui a duré presque deux mois avec la main haute. Donc, on a entendu Nasrallah dire, si j'avais su que ce serait la dévastation qui serait au Liban, je n'aurais jamais commencé une guerre contre Israël. Ce qui s'est passé, c'est la faute de tous les gouvernements qui sont arrivés après, depuis 2006 jusque-là. Ils ont tout simplement opté à ne pas attaquer le Hezbollah sur son propre terrain au Liban. Ils ont préféré agir en Syrie, en Irak et des fois même, je dirais, beaucoup plus loin que ça, pour essayer d'enrayer l'apport ou le transfert d'armes et d'équipements sensibles et au Hezbollah. D'ailleurs, du point de vue statistique, l'armée s'enorgueille d'avoir pu arrêter plus de 70% des équipements qui étaient en chemin pour le Hezbollah et 90% de toutes les technologie de précision, d'autres précisions. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, ça ne nous pardonne pas le fait que Hezbollah est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui, et le fait surtout que dans notre politique, dans notre concept, comment réagir face au Hezbollah, nous avons toujours, je dirais, une certaine crainte de ne pas nous engager dans un chemin qui va nous emmener automatiquement à la guerre. Et la guerre n'est pas un choix pour l'instant pour Israël. On ne veut pas la guerre. Un État démocratique ne court pas à chaque fois à une confrontation militaire. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de vie humaine, et il faudrait commencer par ça. Et naturellement, les résultats ne sont jamais garantis.
Est-ce qu'une autre raison du succès du Hezbollah, Jacques, c'est pas aussi tous les dollars qu'il distribue dans un pays comme le Liban qui est absolument asphyxié dans une économie catastrophique, et là le Hezbollah arrose, si j'ose dire, les populations qui l'intéressent?
Écoutez, le Hezbollah a grandi au Liban. Il faut comprendre le contexte libanais. Le contexte libanais, c'est les chiites. La communauté chiite était une communauté défavorisée pendant des années, des décennies défavorisée. Et les relations qu'il y a entre le Hezbollah et l'Iran ne sont pas des relations, entre la communauté chiite au Liban et l'Iran datent depuis au moins 5 siècles. Donc la présence iranienne au Liban n'est pas quelque chose d'hier ou d'avant-hier. C'est quelque chose qui est enraciné depuis des années, des siècles presque. Donc de ce point de vue-là, je dirais, quand le régime des Mollahs a décidé de fonder le Hezbollah en 1982, l'idée était naturellement d'abord de s'attaquer à l'autre organisation chiite qui était sur place, Amal. Et à partir de là, donc, engager toute une idéologie d'un côté, se renforcer militairement, bâtir une force militaire, et deux, bâtir, je dirais, une audience. L'audience a été bâtie par l'argent iranien, des millions et des millions de dollars qui ont circulé au Liban pour mettre sur pied des hôpitaux, des écoles, des banques, des supermarchés, tout cela au profit de la population chiite. Et dernièrement, ce que fait le Hezbollah, c'est que tous ces services-là qui sont donnés à la communauté chiite sont présentés maintenant à des chrétiens. Donc, ce qui nous amène à la conclusion que le Hezbollah vise aussi non seulement l'audience chiite libanaise, mais aussi se comporte comme un souverain au Liban. Et la preuve est là, c'est que le Liban est paralysé parce que Hezbollah a décidé de le paralyser.
Bien sûr. Alors, on a vu qu'ils ont fait d'importantes manœuvres il y a peu de temps, simulé des attaques contre Israël, fait un énorme défilé militaire pour montrer leur force. Pourquoi maintenant, spécifiquement, Jacques Neria?
Alors, ce n'est pas de maintenant que cela se date, je dirais, cette préparation. L'idée de combattre Israël et de porter la guerre à l'intérieur d'Israël en s'emparant d'une partie de la Galilée a été énoncée déjà en 2011. Mais simplement en 2011, jusqu'à aujourd'hui, les unités du Hezbollah étaient engagées dans la guerre civile en Syrie. Donc, on ne pouvait pas avoir affaire à Israël et en même temps aider le régime syrien à survivre. Maintenant que les choses sont beaucoup plus stables du point de vue syrien, Hezbollah peut se tourner vers Israël et il a naturellement sur son agenda, il a plusieurs dossiers. Je dirais territoriaux, certainement, où le Hezbollah demande à ce que certaines parties d'Israël, je dirais, souveraines, soient redonnées, soient rendues au Liban parce qu'ils ont été envahis ou prises ou évacués en 1948. Donc ça, c'est d'un côté. Puis ensuite, il y a les fermes de Shaba où le Liban dit, et Hezbollah aussi, que c'est un territoire libanais alors que nous disons c'est un territoire syrien qui a été pris par la Syrie en 1967. Et il y a aussi les affaires du tunnel. Les 800 mètres du tunnel de Rosh HaNikra, où le Hezbollah dit que ces 800 mètres appartiennent au Liban et non pas à Israël. Donc, de ce point de vue-là, il y a un agenda très clair que le Hezbollah est en train de pousser, et on le voit Pourquoi est-ce que les dernières émeutes se sont passées du côté de Hardov, donc les fermes de Chamard, la semaine dernière? C'est exactement dans ce concept-là. Les fermiers qui sont arrivés, soi-disant les fermiers, c'était des combattants des Hezbollah qui sont arrivés sur place, oui, pour dire que non, ce n'est pas la ligne bleue elle passe par là, ce sont nos terres à nous. C'est exactement, je dirais, dans ce cadre-là que ça s'engage.
Ma dernière question, Jacques Neria. Cette semaine, le Parlement doit encore se réunir pour élire un nouveau chef d'État. Je rappelle que le Liban n'a toujours pas de président depuis le mois d'octobre dernier, la fin du mandat de Michel Aoun. 11 tentatives, toujours pas de consensus politique. Ça, j'ai l'impression que ça arrange bien les affaires du Hezbollah, Jacques.
Pour l'instant, le Hezbollah a un candidat à lui, c'est Slimane Frangieh, qui était à l'époque aussi le candidat d'Emmanuel Macron. Il semblerait que les Français aient changé de candidat, mais pour l'instant, n'empêche que, je dirais, le fait que Hezbollah a son propre candidat, il va tout faire pour empêcher l'élection du candidat du camp chrétien de Djihad Azour. Donc, on va se retrouver possiblement, je ne vais pas jurer là-dessus, mais probablement le 14 du mois, donc d'ici 2 jours, on verra bien le Parlement s'il est capable de voter pour un nouveau président au Liban. Sinon, il y a déjà des rumeurs qui circulent qu'il y aurait un troisième candidat qui a été toujours dans les coulisses et dont on parlait tout le temps, mais on ne pouvait pas le dire très clairement. Et c'est le chef de l'armée, Joseph Aoun.
Merci beaucoup, Jacques Neria, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes ancien officier de renseignement militaire et spécialiste du Liban. Très bonne journée.
Merci, très bonne journée à vous, Lise.